France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Mazette. Quelle musique ! Deuxième dimanche du mois, émission consacrée donc à une star de notre panthéon musical. Aujourd'hui, Ariane. Ariane, l'autre fille de Minos et Pasiphaé, princesse de Crète aux âges mythologiques. Partons donc pour la Crète. Pour la Crète, bien, je ne sais pas qui a choisi ceci pour commencer, nous voilà encore partis pour de la gaudriole. Ressaisissons-nous, le sujet nous l'impose, c'est la destinée d'Ariane. Ariane, Ariana ou Ariadne, selon les langues mortes ou vivantes, Ariane aux belles boucles, comme l'a qualifié Homère, la blonde Ariane, fille préférée de son père, qui séduisit le prince d'Athènes, fils d'Égée, Thésée, dont elle était également tombée amoureuse. Thésée était venu en Crète, au palais de Minos. Minos avait imposé à Athènes un tribut, tous les 9 ans, 7 jeunes filles et 7 garçons, pour les donner en pâture au Minotaure, fruit monstrueux des amours monstrueuses de l'épouse de Minos, la reine Pasiphaé, avec un superbe taureau blanc, épouvantable vengeance du dieu Poséidon, parce que Minos ne lui avait pas, comme promis, sacrifié ce magnifique taureau blanc. Dédale construisit le fameux labyrinthe où on enferma le monstre. Je ne vous apprends rien de cette lamentable affaire. Thésée pénètre dans le labyrinthe, oxy vigoureusement le Minotaure, mais il ne doit son salut qu'à la pelote de fil déroulée dans ce dédale qui lui permet d'en retrouver la sortie. Pelote de fil et stratagème qu'il doit à l'ingénieuse Ariane. Thésée ne songe alors qu'à prendre le large et regagner Athènes. Et à partir de là, les versions se multiplient et divergent. Était-ce sur le rivage de Crète ou lors d'une escale sur l'île de Naxos ou de Dia? Était-ce par erreur, par intention ou par accident en raison d'une tempête qui emporta le bateau? Toujours est-il qu'Ariane, qui suivait Thésée dans sa fuite, se réveilla seule, abandonnée et désespérée. Et là encore, plusieurs versions. Elle meurt. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée, mort de chagrin ou suicide dans les flots déchaînés ou flèche létale envoyée par une divinité jalouse, ou elle survit. Et après des péripéties plus ou moins chantournées, elle épouse le dieu Dionysos, Bacchus. Alors, jeune et charmant, et Zeus décide de soustraire Ariane à jamais à la mort et à la vieillesse. Elle rejoint l'Empyrée en apothéose, et sa couronne nuptiale d'or devient une constellation, la couronne boréale, visible entre la lyre et le bouvier, dans le prolongement du manche de la casserole, comme on dit, de la grande ours.
Thank you.
C'était l'ouverture de l'Arianna de Benedetto Marcello, bel opéra créé en 1726 à Venise avec un immense succès. Innombrables sont les compositeurs fascinés par le mythe et la personnalité d'Ariane, sans parler de ceux qui ont fait scintiller en musique d'autres aventures, comme la somptueuse Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas. Selon notre habitude, notre vagabondage, aujourd'hui parmi les musiques du mythe d'Ariane, sera guidé par le plaisir, par l'émotion, sans prétention aucune à l'exhaustivité. Comme l'écrivit Salluste, bien que ces choses ne soient jamais arrivées, elles existent toujours. Le mythe fut et reste peut-être, d'une certaine façon, l'explication la plus puissante du monde. Et depuis le XIVe siècle, la musique occidentale a toujours bu à la source des mythes et des grands récits religieux, réservoirs inégalés, sans fond, d'histoires et d'archétypes pour tous les temps. Ainsi, ce chef-d'œuvre de l'Ars Nova, la chanson avec sous-entendu politique, en français mais avec une ornementation très typique de l'art italien de la fin du Trecento, par le Grand Sens d'Ariane, de Filippotto da Caserta, grâce à la grande raison de la sage Ariane, Thésée put se garder du danger quand vint son tour de tenter le voyage dans la maison de Dédale. Puis il l'a trahi et l'a voulu exiler. Il lui a pris un bijou de grand prix qu'on ne peut avoir sans un haut couvert de lys. Aujourd'hui, notre fil, si j'ose dire, sera celui du mythe lui-même en quatre temps. D'abord, l'étreinte et le labyrinthe. Nous écoutons un extrait de la subtile et belle musique composée en 1947 par Elliot Carter pour Le Minotaure, ballet de Balanchine. Un délicieux allegretto pour ce pas de deux. Ariane danse avec Thésée avant qu'il s'engage dans le labyrinthe. Approche hésitante, puis séduction mutuelle, effusion, sans insouciance évidemment. L'orchestre laisse beaucoup d'espace à des bois très virevoltants avec solo de flûte, puis de violon et de violoncelle. l'étreinte et à présent le labyrinthe. En 1734, en pleine rivalité avec entre autres Porpora, qui vient d'achever la composition de son Ariane Anaxos, Handel se doit de frapper un grand coup avec Arianna in Creta. Et il s'assure le concours du sensationnel Castrat Carestini dans le rôle de Thésée. Nous le rejoignons au fond du labyrinthe par le truchement brillant de Philippe Jaroussky. À l'autre bout du fil, Ariane s'inquiète, corps à corps avec le Minotaure. « Je te défie, monstre infâme, viens donc, je ne crains ni ta rage ni ta fureur, tu mourras. Mais si tu es victorieux et si tu me dévores, laisse au moins mon cœur intact, il ne m'appartient plus. Voilà qui est courtois. À la fin du da capo, je touche, et même j'oxy. »
Il tuo furore, vedi pur io non tento la tua rabbia. Vedi pur, vedi pur, che non pavento la tua rabbia. Il tuo furore, il tuo furore. Qui ti sfido, a vostri fanni, a vostri fanni.
Deuxième temps de notre parcours, après l'étreinte et le labyrinthe, l'abandon et la lamentation. À l'instant, Ariane abandonnée ne le sait pas encore, elle dort au bord du rivage. tirée d'Ariane et Bacchus, une des quatre tragédies lyriques de Marin Marais, encore à redécouvrir et écrite d'après la très belle et rare tragédie Ariane de Thomas Corneille, la symphonie du sommeil. Les Héroïdes, écrites par Ovide il y a 2000 ans, trésors cachés, négligés, sont une série de correspondances fictives et bouleversantes d'héroïnes abandonnées. La dixième héroïde est une lettre d'Ariane à Thésée, d'une beauté stupéfiante. Ce que tu lis, je te l'envoie, Thésée, du rivage d'où les voiles emportèrent sans moi ton vaisseau, du lieu où je fus indignement trahi, et par mon sommeil et par toi qui en profita dans ton odieuse perfidie. C'était le moment où la terre est couverte de la transparente rosée du matin, où les oiseaux gazouillent sous le feuillage qui les couvre. Dans cet instant d'un réveil incertain, toute languissante de sommeil, j'étendais pour toucher Thésée mes mains encore appesanties. Personne à côté de moi. Je les étends de nouveau, je cherche encore personne. Stupéfiante beauté également du chant d'Ariane à son réveil, sortant de son rêve. C'était si beau de n'être qu'un, Thésée, Ariane, marcher dans la lumière et la lumière de la vie. Thésée, Ariane, Ariane, Thésée, mi bémol radieux qui s'obscurcit peu à peu. C'est le premier air d'Ariane, Andante sostenuto, dans Ariane Anaxos de Richard Strauss, Jesse Norman et Ariane.
Thank you.
L'histoire de l'opéra est marquée par les réactions diverses et parfois changeantes d'héroïnes délaissées. Octavie, la maréchale, Donna Elvira, Didon, Cho-Cho San, Armide, Alcina, la comtesse des noces, Médée, la femme de la voix humaine ou celle de l'inondation. Mais au commencement, il y eut Ariane et le Lamento d'Ariana, joyeux d'une beauté sans pareille. Ce Lamento est tout ce qui nous reste de la musique du deuxième opéra de Claudio Monteverdi, créé en 1608 pour les noces de François de Gonzague, fils du duc de Mantoue, et de Marguerite de Savoie, l'année suivant la création du prodigieux Orfeo. L'Ariana est en quelque sorte le deuxième opéra de l'histoire de la musique, composé par Monteverdi en plein deuil de son épouse Claudia. Il reçut un accueil triomphal d'un public ému aux larmes lors du chant du Lamento, nous disent les contemporains. La partition disparaît dans le sac et l'incendie du palais ducal de Mantoue en 1630. Mais le Lamento échappe à ce sort parce qu'il a été très largement diffusé, qu'il a fait l'objet d'éditions pirates d'ailleurs, d'innombrables copies répandues à travers toute l'Italie et au-delà. Il connaît d'ailleurs plusieurs versions, madrigal à cinq voix, pastiche sacrée, la plainte de la Vierge, etc. L'intensité musicale et dramatique de ce Lamento est exceptionnelle. C'est ce qui rend sans doute insupportablement cruel la perte du reste de l'opéra aux yeux de tant de spécialistes qui sont toujours à la recherche d'une copie de l'œuvre, s'il y en avait une qui dormait dans l'anonymat d'une antique bibliothèque, quelle heureuse surprise. Écoutons ce Lamento d'Ariana, le texte est d'Ottavio Rinuccini, il emprunte à l'héroïque d'Ovide. C'est un texte d'une grande force, mais la musique le transfigure par la diversité des affects, la multiplicité et la liberté, pour ainsi dire, éruptive des registres. Il est interprété, vécu, pourrait-on dire, par Véronique Jans, sobrement accompagné par le continuo du concert d'Astrée et Emmanuel Haïm, « Lasciatemi morire ».
Se tu sapessi, oh Dio, se tu sapessi, oh Dio. cibo di ferri in solitaria rene.
Presque deux siècles plus tard, en 1789, Haydn, au sommet de son art, compose la cantate Ariane Anaxos, elle aussi focalisée sur ce moment de l'abandon et de la lamentation. Cantate avec accompagnement pour clavier, dont Haydn supervise l'orchestration par son ancien élève Sigismund Neukomm en 1808. La cantate s'ouvre avec le réveil d'Ariane au soleil levant, et ce n'est que dans la troisième partie qu'elle comprend qu'elle a été abandonnée. Musique vraiment magnifique, saisissante que nous allons écouter, phrases ascendantes tandis qu'elle gravit la falaise pour voir au loin s'éloigner le vaisseau de Thésée, motif turbulent des cordes pour figurer les flots, gamme furieuse pour appeler les dieux à la vengeance, et enfin le trouble de la tentation du suicide, seule issue possible. Ah, comme je voudrais mourir, celui que j'ai tant aimé s'en est enfui, barbare et infidèle. Déjà, je ne me soutiens plus, le pied me manque, je sens défaillir en moi mon âme tremblante. Étreinte et labyrinthe, abandon et lamentation, troisième temps du mythe à présent, conscience et reconnaissance. Celle d'Ariane face à Dionysos Bacchus dans l'instant de la rencontre. Plus tard viendra le quatrième temps, celui de la métamorphose et de l'apothéose. Richard Strauss est en train de composer la partition d'Ariane à Naxos. Il interroge Hofmannsthal. Quel est le sens profond de l'œuvre ? Hofmannsthal, grand poète, grand dramaturge, immense librettiste, ici d'Ariane à Naxos, mais avant d'Electra et du Chevalier à la Rose, et après de La Femme sans ombre, d'Hélène d'Égypte et d'Arabella, répond à Strauss dans une longue lettre magnifique. tendre vers son propre accomplissement de destinée et devenir le destin d'un autre ou d'une autre est la plus noble force vitale. Ariane nourrit l'espoir et la folie de se donner la mort. Elle croit d'abord que Bacchus est le messager de la mort, comme Bacchus croit qu'elle est la magicienne Circé. Lorsqu'ils se rencontrent vraiment l'un et l'autre, l'un avec l'autre, à l'instant même, voici Ariane ramenée à la vie. Et en Bacchus se révèle soudain le principe agissant de l'amour, le destin, son destin de jeune dieu en voie de déification. Dans Ariane à Naxos, la scène qui illustre le mieux ceci se trouve, à mon avis, dans le prologue de l'œuvre, dans la rencontre et la reconnaissance miraculeuse du jeune compositeur et de la très jeune Zerbinette lorsqu'ils se révèlent l'un à l'autre et l'un dans l'autre, pour reprendre les termes d'Hofmannsthal. Un instant de sincérité absolue, de dévoilement des êtres que révèle livret et musique. « Je ne survivrai pas à cette heure, tu survivras à de tout autre moment. Que veux-tu dire par là, en cet instant ? Un instant est peu de choses, un regard est beaucoup. Oublieras-tu bientôt cet instant ? Dans les siècles infinis, peut-on oublier un tel unique instant ?»
Eine Prinzessin ist für ihren Bräutigam sitzen gelassen und ihr nächster Verehrer ist vorerst nicht angekommen. Die Bühne stellt eine wüste Insel dar. Wir sind eine muntere Gesellschaft, die sich zufällig auf dieser wüsten Insel befindet. Ihr richtet euch nach mir und sobald sich eine Gelegenheit bietet, treten wir auf und mischen uns in die Handlung.
Thank you.
ich muss fort.
Mazette, quelle musique! Autre version très différente du mythe dans lequel Ariane et Thésée se séparent dès la sortie du labyrinthe, version antique, mais revisitée par le compositeur Bohuslav Martinů et l'écrivain Georges Neveu, déjà librettiste de Martinů pour Juliette et la Clé des Songes. Ils introduisent une approche à la fois symboliste, surréaliste et psychanalytique. Ariane quitte Thésée qui vient de tuer le Minotaure. Elle le reconnaît dans le Minotaure mort. « Je savais bien qu'il te ressemblait. » J'aurais eu de toi un jour et une nuit, sans ombre et sans regret. Si les autres jours, si les autres nuits ne doivent pas être les mêmes, je préfère te voir partir. Je respire une dernière fois avant d'avoir la force de te dire adieu. Demain, je serai loin. Adieu, Thésée, adieu. Scène de conscience et de reconnaissance qui clôt cet opéra en un acte, Ariane de Martinů. sur le coup de 3 heures. L'heure des badineries que nous passerons à Naxos, la plus grande île des Cyclades dans la mer Égée. Île qui culmine à 1000 mètres d'altitude au mont Zeus, sommet de tout l'archipel. Île jadis couverte de forêts, florissante dès l'époque dite archaïque, renommée pour ses vergers, son miel, ses vignobles, sa très justement fameuse liqueur de Quitrone, un agrume local entre citron et cédra, duché vénitien du XIIIe au XVIe siècle, évêché catholique au cœur de l'orthodoxie, siège d'un collège royal français. Naxos est surtout célèbre parce que, à l'âge des légendes et des mythes, nous le savons, la belle Ariane, princesse crétoise, s'y trouva seule, abandonnée, prête à se précipiter dans les flots avant que Dionysos tombe dans ses bras et réciproquement et la conduise en apothéose sur l'Olympe avec la bénédiction de Zeus. On danse à Naxos, par exemple la sousta, notamment pour les noces. Musique de sousta, danse traditionnelle à 3 temps avec un petit saut, danse dont l'origine sans doute crétoise date peut-être de l'Antiquité. C'était ici un ensemble de musiciens professionnels, comme on peut entendre à Chora, la capitale de l'île, mais partout dans les bourgs existent des musiciens amateurs un peu plus rustiques, mais qui savent l'art de la sousta, de leur sousta, celle du village. S'il est un instrument qui est vraiment typique de Naxos et dont l'art devient rare, c'est le souvliari, une flûte à 6 trous, proche de l'holos inventée par Athéna elle-même, on le sait, flûte à laquelle est liée une seconde flûte sans trous, avec une note unique, donc comme un bourdon. Nous entendons le souvliari seul dans une autre danse, un hasapikos, dont nous notons le rythme très entraînant. Hasapikos, c'est-à-dire littéralement la danse du boucher, danse rapide, comme on vient de l'entendre, mais il existe aussi une version lente, comme une sarabande, en grec on dit même lourde. Danse qui vient de Constantinople et de l'Asie mineure, à l'époque impériale, à l'époque byzantine, et de tout temps très populaire à Naxos, peut-être parce qu'une large partie de la population de l'île est d'origine micrasiate, comme on dit là-bas, c'est-à-dire d'Asie mineure. Avant et après la grande catastrophe et l'exode forcé des populations orthodoxes d'Asie mineure vers la Grèce, et en sens inverse des musulmans d'Épire et de Macédoine vers la Turquie, juste après la Grande Guerre. Au cours du XXe siècle, le hasapikos byzantin est devenu dans ses 2 versions, lente et rapide, une danse très appréciée partout en Grèce. Et pris d'enthousiasme par la performance d'un danseur, notamment dans ses sauts, vous n'hésitez pas encore aujourd'hui à lancer pièces et même billets. C'était le célèbre Asapikos de Never on Sunday, Jamais le dimanche, film de Jules Dassin avec Mélina Mercouri en 1960. Le rythme est le même que celui joué par le souvliari en solo à Naxos, mais ici avec tout un ensemble instrumental, notamment plusieurs bouzouki. Et le sirtaki, la danse la plus emblématique de la Grèce ancestrale éternelle, eh bien on ne le dansait pas à Naxos. « Apprends-moi à danser, veux-tu ? Tu as dit danser, viens mon petit gars. »«
Dance ? Come on, my boy. »
La très enthousiasmante scène finale de Zorba le Grec, film de Michalis Kakoyanis, où après la petite catastrophe de l'effondrement du téléphérique et de tous leurs espoirs, Basile, le roi, Alan Bates, demande à Zorba, c'est-à-dire à Anthony Quinn, de lui apprendre à danser sur le sable de la plage de Stavros en Crète. Vous décevrai-je, le sirtaki n'est en rien une authentique danse traditionnelle grecque. Il n'existait pas avant le tournage de cette scène mythique et il ne fut baptisé sirtaki que pour la présentation du film au Festival de Cannes en 1965. Anthony Quinn, alias Zorba, s'était tordu la cheville la veille du tournage. Le Hasapikos rapide prévu avec force saut n'était plus envisageable. Le chorégraphe Georgios Provias improvisa des mouvements dépourvus de saut, commençant sur un rythme de Hasapikos lent, lourd, au ras du sol et s'accélérant lorsque la caméra avait pris du champ. Et Mikis Theodorakis, ce compositeur, adapta le mouvement musical. C'est ainsi que naquit le sirtaki, danse éblouissante dont l'accélération et les modulations provoquent l'ivresse. Dansée à travers le monde avec la célébrissime musique de Theodorakis est devenue la danse soi-disant traditionnelle, ancestrale, la danse emblématique de la Grèce éternelle, à Naxos aussi.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Reprenons le cours de notre vagabondage parmi les musiques du mythe d'Ariane, quatrième et dernier temps, métamorphose et apothéose. Extrait de la lettre d'Hofmannsthal à Strauss, citée tout à l'heure. La métamorphose, prodige entre tous les prodiges, authentique mystère de l'amour. S'il est donné à l'amour de se saisir de toute sa puissance d'un être, celui-ci peut se délivrer jusqu'au tréfonds de lui-même de tout ce qui l'engourdit. Le monde lui est rendu, le monde s'enchante lui-même. Ariane ainsi métamorphosée dans les plis du manteau de Bacchus, de quoi prend-elle conscience ? Sinon qu'elle aime et qu'elle vit. Elle était morte et la voici ramenée à la vie, son être s'est en vérité métamorphosé. En s'éprenant du jeune dieu, Ariane réintègre l'humanité. Nous écoutons la scène finale d'Ariane à Naxos de Strauss, grand duo extatique d'Ariane et de Bacchus sur le thème de la métamorphose et de l'apothéose de l'un et de l'autre et de l'un dans l'autre. Et la conclusion d'un bon sens prosaïque est donnée par Zerbinette. Quand survient un nouveau dieu, nous lui sommes toutes dévouées et muettes. suivant le point de vue de Dominique Jameux, très grand Straussien devant l'éternel et qui pensait non sans raison qu'Hoffmannsthal avait en quelque sorte forcé Strauss à composer les trois dernières minutes, emphatiques, un peu redondantes, très belles mais un peu convenues, qui suivent la dernière réplique de Zerbinet, nous nous arrêterons là.
Sure.
autre métamorphose et apothéose, celle composée pour la scène finale du ballet Ariane et Bacchus d'Albert Roussel, grand musicien français, acclamé dans les années 1920 et 1930, un peu dévalué depuis, je crois, surnommé par certains l'outsider, souffrant définitivement de l'ombre projetée par Debussy, Ravel et Stravinsky, mais créateur au langage personnel, avec une musique puissante, presque toujours intranquille, me semble-t-il, même dans les chefs-d'œuvre que sont sa troisième symphonie, sa suite en fa, sa sérénade, et ce ballet, Ariane et Bacchus, de 1930. Il faut bien admettre qu'Hoffmannsthal et sa subtilité ne sont pas la mesure de toutes les musiques d'apothéose d'Ariane.
Thank you.
la correspondance de 15h21. La correspondance d'aujourd'hui est cinématographico-musicale. Love in the Afternoon, l'amour l'après-midi, dans la version française Ariane, est un film de Billy Wilder de 1956. C'est le remake d'Ariane, film tourné en 1931 d'après un roman français Ariane, la jeune fille russe, par Paul Schinner avec la très belle et célèbre Elisabeth Berkner et dans la version française Gaby Morley, une musique de Richard Strauss et une scène qui se passe à l'opéra avec Don Giovanni de Mozart. Ni Strauss ni Mozart, mais l'âme des poètes de Charles Trenet. Love in the Afternoon, Ariane de Billy Wilder, se passe à Paris. Dans un Paris sublimé, à la Douaneau en extérieur et avec le grand décorateur Alexandre Trauner en intérieur. Paris où, comme Maurice Chevalier le dit en voix off au début du film, dans un anglais d'un chic tout parisien, les gens mangent mieux qu'ailleurs et font l'amour pas forcément mieux mais plus souvent et n'importe où et n'importe quand et suivent 2 minutes hilarantes de French kiss tous azimuts à travers Paris, de quoi frémir en pleine pandémie. Trois personnages principaux, Claude Chavas, un détective spécialisé dans les affaires matrimoniales, c'est Maurice Chevalier dans son premier film où il ne chante pas. Il est veuf et père d'une jeune Ariane, charmante, piquante, très imaginative, apprentie violoncelliste. C'est Audrey Byrne qui s'éprend de Frank Flanagan, alias Gary Cooper, américain, quinquagénaire, richissime, inlassable Don Juan, bien connu du détective Chavas, car les maris victimes de Flanagan quand il est à Paris assurent une large partie de son chiffre d'affaires. Nous ne dirons rien de plus de l'intrigue, hautement distrayante, admirablement jouée et menée par Wilder avec son habituelle hésitation entre fascination pour les femmes libres et déterminées et un fond de pessimisme machiste. L'action se déroule pour l'essentiel dans 3 lieux. Quelques minutes au Palais Garnier, l'Opéra de Paris, à un des tournants du film. Du début de Don Giovanni dans le film de 1931, on passe au prélude de Tristan et Isolde de Wagner. Le Don Juan risquerait-il, comme Tristan, de s'éprendre éperdument à la vie et à la mort ? Non pas le prélude de l'opéra de Wagner, mais un extrait de la magnifique fantaisie sur Tristan de Franz Waxman, qu'après Boulevard du Crépuscule, Billy Wilder a choisi pour la musique d'Ariane. Avant et après l'opéra, on passe plus de temps dans la suite numéro 14 du Ritz sur la place Vendôme. Ritz où Flanagan s'installe lors de son séjour annuel à Paris et reçoit ses conquêtes. Il y convoque chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, un quatuor tzigane dont la musique passionnée et langoureuse achève de vaincre les résistances s'il y en a. Thank you. Un des morceaux favoris de ce quatuor tzigane et de son commanditaire est Fascination, Fascination, tiens donc. Fascination, valse tzigane lente, composée en 1904, entêtante mélodie qu'Audrey Hepburn, Ariane chantonnent sans s'en rendre compte, et le spectateur aussi d'ailleurs en sortant du film. Et c'est effectivement l'air que l'on entend le plus souvent dans le troisième lieu important du film, l'appartement situé au 17 rue Malebranche, 100 mètres en contrebas du Panthéon, où vivent Ariane et son détective de père. Il y reçoit les maris trompés et un jour Flanagan lui-même. On y entend aussi, mais bien peu, des fragments de la partie de violoncelle de la 88e symphonie de Haydn, qu'Ariane répète K1K, en se concentrant plutôt sur la lecture en cachette des dossiers professionnels de son père, notamment du dossier de Flanagan. Quelques lieux annexes, le conservatoire où Ariane se rend le soir pour les répétitions d'orchestre, les couloirs du Ritz où Ariane laisse son étui de violoncelle lorsqu'elle est, par conséquent l'après-midi, dans la suite 14, les bains turques où se rend Flanagan lorsqu'il est un peu déprimé, mais toujours accompagné par le quatuor tzigane que la vapeur d'eau ne dérange pas manifestement et qui plus tard accompagne sur une barque Flanagan et Ariane étendus dans une autre barque au fil de l'eau, etc. C'est ainsi que la musique tzigane, la musette parisienne de carte postale et la valse fascination envahissent peu à peu la bande originale composée par Waxman pour Ariane. Et à la fin, Maurice Chevalier, en voix off, nous informe « Flanagan et Ariane sont désormais mariés et purgent leur perpétuité à New York City, État de New York, États-Unis ».
France Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
Pour achever notre vagabondage du jour par une dernière apothéose de l'intrépide Ariane, je vous propose d'écouter le court récitatif qui conclut la très belle cantate L'Ariana d'Alessandro Scarlatti, le génial père du génial Domenico 555 sonate. Ainsi elle parlait et pleurait tant que Bacchus la voyant la prit en telle pitié et telle compassion que du rocher funeste, il la porta avec lui sur les voies du ciel. Avec très peu de moyens, en un instant à peine, c'est aussi magique que la somptueuse apothéose straussienne de tout à l'heure. Ici, le récitatif secco se transforme en arioso, et comme précédé et guidé par les violons, la ligne vocale s'élève vers les cieux, métaphore sublime de l'apothéose d'Ariane.
Thank you.
L'émission se termine et nous revenons sur Terre. Sur la page Mazette Quelle Musique du site de France Musique, vous le savez, vous trouverez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. Pour cette émission mythologique et apothéotique et ce voyage jusqu'aux îles de la mer Égée, la fine équipe était avec moi, Laurent Lefrançois à la réalisation, Philippe Mercher à la technique, ainsi que Nelly Portal et Laure Poissonnier pour le site. Merci à chacune et à chacun. Rendez-vous dimanche prochain, quelques heures avant le solstice d'hiver, quelques heures après la pleine lune. Tiens, d'ailleurs, dans la mythologie, Naxos est le fils d'Endymion et de Séléné, la lune. Reparlons-en. Excellente semaine sur France Musique. Et dans quelques secondes, Brut d'accordéon avec Félicien Bru, solstice de nos après-midi dominicales sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.